Les colloques du Collège de France.
Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette réunion. La question de l'éducation, de l'apprentissage, évidemment, c'est une question très très vaste quand on s'intéresse à l'évolution humaine, parce que c'est la question, dans le fond, de la transmission sociale du savoir, de la culture, aussi des normes sociales, on en parle beaucoup en ce moment. Et Thomas Romer, il y a quelques instants, vous a dit que la différence entre l'homme et l'animal n'était pas toujours facile à tracer. Vous allez voir que ce sujet, en fait, déborde très très largement la question de l'évolution humaine. Et les paléoanthropologues, les archéologues se sont évidemment intéressés à ces questions, mais aussi, disons, au cours des 20-30 dernières années, ça a été un sujet très important pour la primatologie, l'éthologie d'ailleurs au sens plus large, et puis aussi pour les chercheurs qui s'intéressent à la psychologie évolutionnaire avec des travaux, même des travaux expérimentaux. Alors, en fait, au cours de ces derniers 20 ou 30 ans, ce qui a émergé, en fait, graduellement, c'est la compréhension du fait que, dans le fond, dans le monde animal, on a des comportements complexes, en particulier des espèces qui sont capables d'utiliser des technologies, des outils, ce qu'on croyait vraiment être le propre de l'homme. Et ces outils peuvent être assez complexes, en fait. On a même des cas d'outils composés. C'est quelque chose qu'on trouve chez les grands singes, mais aussi dans d'autres groupes animaux. Ici, vous voyez à droite une corneille de Nouvelle-Calédonie, qui est une espèce qui a beaucoup intéressé les éthologistes, parce qu'elle fait des choses tout à fait remarquables. Et puis, donc, d'une façon plus large, au-delà de cette découverte des outillages et des technologies dans le monde animal, a émergé la notion qu'il y avait, dans le fond, des cultures animales. Alors, on peut mettre des guillemets autour de ce mot « culture », mais en fait, cette notion de culture animale, elle s'attache à l'idée que non seulement on a des comportements assez complexes, des outils qui peuvent être mis en œuvre par certaines espèces, mais aussi une transmission de ces comportements d'une génération à l'autre avec une forme de tradition qu'on observe dans certains groupes. Vous voyez, sur cette image, vous voyez en bas des orques. Les orques sont des animaux qui utilisent des techniques très particulières pour chasser leurs proies. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des groupes d'orques qui avaient développé, innové, si je peux dire, trouvé des moyens nouveaux d'attraper des phoques, des saumons, Dieu sait quoi. Et ces traditions se maintiennent localement dans des zones géographiques particulières. Alors, chez les orques, enfin, chez les cétacés en général, ça se double du fait qu'il y a des moyens de communication assez complexes, apparemment, entre les individus de ces groupes. Alors, évidemment, la question qui se pose immédiatement, c'est quel est le mode de transmission, dans le fond, de ces comportements, et est-ce que c'est un mode de transmission qui est comparable à celui que les hommes connaissent, parce que pour nous, évidemment, la transmission du savoir, c'est essentiellement une question d'éducation et d'enseignement. Je vous l'ai dit, ces traditions, entre guillemets, se perpétuent parfois sur des longues durées, et on a vu se développer notamment une archéologie des primates. Ce que vous voyez à droite sont des pierres qui sont brisées, et qui viennent d'un site de la forêt de Taille, en Côte d'Ivoire, dans un site stratifié qui remonte à plus de 4000 ans. Et pendant plus de 4000 ans, on a un groupe de chimpanzés qui est venu dans cet endroit précis dans la forêt pour pratiquer le cassage de noix avec une enclume et puis un percuteur. Alors ce percuteur, il est parfois en pierre, parfois en bois. C'est typiquement le genre de choses qu'on voit se transmettre de façon particulière dans un certain groupe de chimpanzés plutôt que dans un autre. Et donc, on trouve les débris de ces enclumes ou de ces percuteurs stratifiés dans ce site archéologique, donc de chimpanzés. Il y a deux façons d'interpréter cette transmission. Je dirais la majorité des primatologues pensent que c'est une affaire d'imitation. Il n'y a pas d'enseignement chez les chimpanzés, mais simplement les petits chimpanzés grandissent dans un environnement où ils voient un certain nombre de choses se faire, et comme eux aussi ont envie de manger des noix, un jour ils se mettent à faire ce que leur maman faisait devant eux, et ils se mettent à casser des noix avec les mêmes enclumes et les mêmes percuteurs qui sont là posés sur le sol depuis 4000 ans. Plus récemment, s'est développée un autre type d'interprétation de cette transmission. Alors, c'est traduit de l'anglais, je ne sais pas si c'est une traduction très heureuse en français, mais c'est la notion de zone de solution latente qui a été développée par un chercheur il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Claudio Tenni. Et cette notion de zone de solution latente, c'est l'idée que, en fait, ces espèces animales ont un certain équipement cognitif, vivent dans un certain environnement, et dans le fond, cet environnement et leurs besoins leur créent une sorte de zone dans laquelle ils vont naturellement inventer eux-mêmes, individuellement, réinventer à chaque génération les mêmes comportements. Donc ce n'est pas vraiment une transmission de génération en génération, c'est une sorte de réinvention par des individus qui ont un certain génome, certaines capacités et, encore une fois, qui vivent dans un certain environnement avec certains besoins, des mêmes gestes et parfois des mêmes techniques plus ou moins complexes. Alors évidemment, cette question de l'imitation ou de la zone de solution latente, c'est quelque chose qui s'oppose de façon assez nette, en tout cas au premier regard, avec ce qu'on trouve dans les sociétés humaines. Et dans les sociétés humaines, heureusement, chaque génération ne doit pas réinventer la roue sous ses diverses formes et les pneumatiques qu'on peut mettre sur les voitures. Et donc, chaque individu qui naît dans une société humaine, eh bien, bénéficie, grâce à l'éducation, eh bien, de tout le savoir, de toutes les innovations qui ont été accumulées par les générations précédentes. Alors, cette notion de culture cumulative, elle a été promue, développée par des chercheurs comme Mike Tomasello, Boyd et Richardson dans les débuts des années 2000, fin des années 90. Et la culture cumulative, ben, c'est assez simple à comprendre. Hein. On a, à un moment donné, dans un groupe, on parle ici de groupe humain pour l'instant, une innovation comportementale, où les effets d'une innovation comportementale, ça peut être un artefact, et cette innovation, elle n'est pas transmise socialement. C'est quelqu'un qui invente quelque chose. Alors, cette innovation, elle est suivie d'une transmission sociale, qui est une transmission sociale horizontale ou verticale, ou les deux à la fois. Et le fait que les générations suivantes bénéficient de cette innovation va entraîner une augmentation de ce qu'on appelle en anglais « fitness hein, », c'est-à-dire, en gros, les capacités du groupe. Et la culture cumulative, eh bien, ça, c'est la répétition de ces phases 1, 2, 3, de façon continue, séquentielle, au fil du temps. Et donc, c'est comme ça qu'évoluent les sociétés humaines. Alors, quand cette notion a été proposée et développée, on s'est dit, ben voilà, on est tranquille, maintenant on sait quelle est la différence entre les cultures animales et puis les cultures humaines, jusqu'à ce qu'évidemment des primatologues viennent avec des exemples montrant que, alors évidemment pas sous une forme aussi développée que dans les sociétés humaines, mais on a dans des groupes animaux des formes de culture cumulative. Alors, ce sont surtout des travaux expérimentaux chez les primates, notamment, qui ont montré ça. C'est-à-dire, bon, en gros, des groupes de chimpanzés, alors c'est dans des zoos, inventent quelque chose, et puis c'est quelque chose qui se transmet aux autres. Alors, c'est en général un moyen d'obtenir plus de nourriture, hein, et ça marche très bien, et les autres l'adoptent, et ça se transmet au cours du temps. Et donc, on a remis une couche supplémentaire de critères sur cette culture cumulative. Plus récemment, là, vous voyez, je fais référence à un article de Messouni et Tanton de 2018, en ajoutant des critères complémentaires à pour définir cette culture cumulative proprement humaine. Et ce qu'on observe dans dans les sociétés humaines, eh bien, c'est d'abord une diversification culturelle, c'est-à-dire qu'en gros, il y a, en même temps que se produit cette accumulation d'innovations, une divergence entre les groupes humains. D'ailleurs, soit dit en passant, cette divergence, elle n'augmente pas toujours la fitness, hein, des groupes, hein. Je doute que ces robes charmantes de ces jeunes femmes augmentent beaucoup leur fitness, mais c'est ce qu'on observe dans les sociétés humaines. Ensuite, il y a une transmission horizontale, c'est-à-dire qu'en gros, des groupes culturels adoptent des comportements d'autres groupes. Donc, à la transmission verticale s'ajoute une transmission horizontale qui, dans le monde animal, n'est pas tellement observée, en tout cas d'un groupe à l'autre. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle de l'exaptation culturelle, c'est-à-dire que quelque chose qui a été inventé pour une certaine fonction, une certaine finalité, eh bien, peut être utilisé à autre chose. Et dans les sociétés humaines, on voit ça constamment se produire. L'exemple que j'ai choisi ici, c'est l'arc, hein. Donc l'arc, ça sert à lancer des flèches, hein. Mais on peut se servir d'un arc pour des tas d'autres choses. Et en particulier, là, vous voyez quelqu'un qui est en train d'allumer du feu avec un forêt en bois, et il utilise un arc pour faire... produire une rotation très rapide de son forêt. Et puis, dernier point qui est aussi particulier aux sociétés humaines, c'est ce qu'on appelle la construction de niches culturelles, c'est-à-dire que tout cet environnement d'innovation stimule la production de nouvelles innovations qui n'ont de sens que dans le cadre de cette niche culturelle. Ce qu'on veut dire par là, c'est quoi ? C'est que si on n'avait pas inventé la voiture au début du XXe siècle, eh bien, on n'aurait probablement pas fait autant de progrès sur les roues et les pneumatiques, qui sont vraiment quelque chose qui est lié à cette industrie automobile. On se demande évidemment comment tous ces phénomènes ont pu se mettre en place au cours de l'évolution humaine, et évidemment on imagine qu'on part d'un modèle qui est beaucoup plus proche de ce qu'on observe chez les grands singes, je vous ai montré tout à l'heure, pour arriver aux sociétés modernes. Évidemment, répondre à cette question, c'est très difficile, et vous verrez que je vais poser plus de questions qu'apporter des réponses. Et une des limitations principales, c'est que on a accès aux comportements passés essentiellement à travers la production matérielle et singulièrement la technologie lithique. C'est-à-dire quand on remonte loin dans le passé, dans le fond, c'est assez peu de choses des comportements humains, mais on a dans n'importe quel site archéologique des quantités de restes d'outillage en pierre. Souvent des milliers, parfois des millions, hein, certains sites se présentent comme ça, hein, des accumulations incroyables de ces objets, parfois sur des kilomètres carrés. Et ces objets, une fois qu'ils sont produits, sont quasiment indestructibles, hein, donc même avec peu de monde, mais en attendant suffisamment longtemps, on arrive à couvrir quasiment la planète d'outils en pierre taillée. Et donc les préhistoriens, évidemment, se sont, depuis le 19e siècle, énormément intéressés à ces outillages. Alors d'une part, pour essayer de comprendre les technologies qui permettent les techniques qui permettent de les produire, et puis aussi pour, alors ça paraît un peu ambitieux, mais analyser le niveau, les capacités cognitives de différents hominines dans le passé, et aussi définir des ensembles entre guillemets culturels. Les plus anciens outillages de pierre taillée que l'on connaisse remontent à plus de 3 millions d'années. Ils ont été découverts au Kenya, à l'ouest du lac Turkana. Alors, ce sont des grosses pierres qui ont été intentionnellement brisées. C'est une découverte assez récente. Hein. Pendant longtemps, on a cru que les premiers outils de pierre ne remontaient guère au-delà de 2 millions et demi d'années. Et on appelle cette culture, cette industrie, vous voyez, le terme de culture, je le prononce avec hésitation, le Lomé-Koyen, du nom du site où on l'a trouvé. Et puis on attend, on ne sait pas très bien qui a fabriqué ça, parce qu'il y a 3,3 millions, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de représentants du genre homo, il y avait des australopithèques anciens, mais on ne peut pas complètement exclure qu'une forme de grand singe ancienne ait fabriqué ce genre de choses. Et puis, la situation se précise vers 2,5 millions avec le développement d'une industrie qu'on appelle l'industrie oldowayenne. Et cette industrie oldowayenne, elle consiste essentiellement à tirer des éclats de galets de roches dures, et ces éclats coupants vont être utilisés surtout à partir de 2 millions d'années pour, dans le fond, pratiquer de la boucherie, du charognage sur des carcasses d'animaux. Et puis, à partir de 1,8 million, on franchit une nouvelle étape avec quelque chose qu'on appelle l'acheuléen, et qui est beaucoup plus, qui nous parle beaucoup plus, parce que on a des objets qui sont des objets non pas amorphes, mais assez symétriques, avec des types, et donc c'est quelque chose qui ressemble beaucoup plus, dans le fond, à un outillage humain tel que nous pouvons l'imaginer. Les gens qui ont étudié toutes ces industries, généralement, venaient de l'archéologie. Donc, ils avaient fait des études d'histoire, d'archéologie. Et c'est vrai qu'ils ont eu tendance, très généralement, à aborder l'étude de ces industries avec un anthropomorphisme assez prononcé. C'est-à-dire qu'ils ont, dans le fond, transposé dans un passé très, très lointain des méthodes et une vision des choses qui était la vision de gens qui travaillaient sur des périodes proto-historiques ou paléolithiques récentes. Et donc, on est allé peut-être un peu fort et un peu vite pour essayer de reconnaître dans ces industries très, très anciennes quelque chose qui ressemble à cette fameuse culture cumulative dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a été quand même assez douché ces dernières années. Pourquoi ? Eh bien, parce que on s'est rendu compte que des outillages, des éclats en tout cas de pierre qui ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve dans l'Oldowayen ou l'Omekoyen, on s'est rendu compte qu'on en trouvait fabriqués par des singes capucins, des macaques, une sorte de primates. Alors pas toujours, généralement pas sous une forme intentionnelle, mais de façon un petit peu accidentelle, mais toujours est-il que ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans certains sites archéologiques. Toute cette typologie qu'on a voulu reconnaître dans ces industries très anciennes, on s'est rendu compte aussi qu'elle était très très influencée par les matières premières qui étaient utilisées, voire les fonctions de ces outillages, et que donc on n'avait pas vraiment affaire à une typologie d'objets qui était transmise de génération en génération. Alors les choses changent avec l'Acheuléen que j'évoquais tout à l'heure, parce que là, on a affaire à la production d'objets qui sont beaucoup plus typés, hein, ce sont des objets symétriques, et on voit dans l'Acheuléen une évolution, alors c'est une évolution très très lente, hein, l'Acheuléen ça dure plus d'un million d'années, on voit une évolution très très lente qui nous fait penser qu'on a affaire vraiment au début de cette culture cumulative. Dans cet Acheuléen va se produire un certain nombre d'innovations. En particulier, quand l'Acheuléen va se répandre depuis l'Afrique vers l'Eurasie, on va voir se développer quelque chose qu'on appelle le débitage levallois. Ça vient du nom de la ville de la banlieue parisienne, hein, où ces objets ont été découverts pour la première fois. Et c'est un type de production d'éclat qui est assez efficace, puisque dans le fond, par une préparation de la forme du support, on arrive à prévoir de façon assez efficace la forme de cet éclat. Et donc cet éclat, ça peut être un éclat ovale, ça peut être une pointe. On peut donc prédire ça. Et on a longtemps considéré le levallois comme une de ces innovations de l'Acheuléen final. Je pense que c'est justement un cas de cette exaptation culturelle que je citais tout à l'heure comme une des caractéristiques de la culture cumulative humaine. Pourquoi ? Ben parce que dans le fond, ces nucléus qui servent à la production d'éclats, eh bien, sont des sortes de bifaces, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le levallois, il est inclus dans le package, dans le paquet de la technologie acheuléenne. Alors, une chose qu'on s'est posée comme question à propos du développement de cette innovation, de ces innovations, vous voyez que la production d'éclats levallois, c'est une chaîne de gestes qui est relativement complexe. C'est le rôle du langage. Et dans le fond, beaucoup de préhistoriens ont tiré argument de cette complexité pour dire, ben voilà, on a affaire à des groupes humains qui sont capables de transmettre une technique complexe par le langage. Et des collègues japonais, sont japonais, ont eu l'idée de tester cette chose-là. Hein. Et en prenant des groupes d'étudiants, alors ça se passe dans les années 90, de montrer, de faire une démonstration sans transmission verbale de la technique, et puis de comparer le résultat obtenu avec un groupe à qui on enseignait vraiment ce qu'il fallait faire, sous une forme de cours quasiment. Et le résultat, eh bien, c'est que ces deux groupes en fait produisent exactement le même genre d'outils à la fin. Et donc, on peut très très bien transmettre ce genre de technique par imitation plutôt que par un enseignement vraiment organisé. Alors, je vous épargne les tableaux de chiffres qui montrent la comparaison des deux groupes. À cette époque-là, on voit se développer alors un autre caractère de cette culture cumulative complexe humaine qui est la différenciation culturelle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des entités géographiques et chronologiques dans lesquelles on va trouver des comportements bien particuliers ou des technologies bien particulières qui se transmettent localement. Alors, on a ça dans le paléolithique moyen en Europe, avec les hommes de Néandertal, mais on a surtout ça en Afrique, à la même époque. Donc là, on est entre 150 000 et 40 000 avant le présent, avec vraiment des aires géographiques dans lesquelles on voit se développer des outillages très particuliers. Et puis, ça va culminer au paléolithique supérieur, avec des outillages qui sont extrêmement stéréotypés, surtout dans la production de pointes qui servent à fabriquer des armes de jet. Et donc pour finir, je voudrais vous montrer deux exemples, enfin surtout un en fait, de ce qu'on peut saisir dans le registre archéologique de l'apprentissage. Et alors évidemment, c'est quelque chose qui touche des périodes relativement récentes du paléolithique, et qui nous parlent. Pourquoi ? Parce que, bon, ce sont des homo sapiens, alors, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent une vie très différente de la nôtre, mais quand même, qui, en même temps, sont assez proches de nous du point de vue biologique, cognitif. Alors, je vais vous emmener d'abord dans un site qui n'est pas très loin d'ici, qui est dans l'Essonne, qui s'appelle Étiole, et qui est un site qui est près de la forêt de Sénart, en bord de Seine. Et donc ce site, c'est un site qui a été laissé par des chasseurs de rennes il y a environ 15 000 ans. Et sur le bord de la Seine, plutôt sur le bord d'un des chenaux de la Seine de l'époque, on a des hommes qui sont venus camper pour chasser le renne de façon régulière, saisonnière, et à cause des inondations saisonnières de la Seine, eh bien, ce qu'ils ont laissé derrière eux a été recouvert, et on a une sorte de fossilisation d'un instant, en tout cas d'une courte période de la vie de ces gens-là. Et on a pu, en décapant des grandes surfaces, on parle de centaines, voire de milliers de mètres carrés, on a pu mettre au jour des groupements d'outils, des foyers qui permettent de reconstituer vraiment ces campements. On a aussi une analyse qui a été faite assez intéressante de la circulation des objets brisés d'un groupe à un autre, enfin en tout cas d'un foyer à un autre. Et grâce à cela, eh bien, on arrive vraiment à se représenter ce campement d'il y a 15 000 ans. Donc vous voyez, c'est un campement qui est sur une petite pente en bord d'un chenal, avec deux, ce qui devait être des huttes, des tentes, quelque chose comme ça, deux familles. On a même évalué le nombre de gens qui vivaient là. Il y en a une qui a l'air quand même un petit peu mieux installée que l'autre. Et puis des foyers autour desquels il y a différentes activités. Une des raisons qui ont attiré les hommes dans cette région-là, à part les rennes, c'est qu'il y a pas très loin une source de silex de très très grande qualité, et surtout qui se présente dans des blocs de très grande taille. Et donc ces gens-là, qui étaient vraiment des tailleurs de silex très très habiles, eh bien, ont produit des lames de silex absolument spectaculaires. Il y en a qui font plus de 30 cm. C'est très difficile à produire, mais voilà, ils savaient le faire. Et donc, on peut, grâce à ces fouilles qui récoltent tout le matériel laissé par ces groupes, on peut remonter les blocs de matières premières originelles et comprendre exactement comment tout ça a été produit. C'est tout à fait intéressant. Et alors, ce qu'on a découvert dans ce site d'Étiole, c'est qu'il y a un foyer, là, ici, qui est le foyer G13, autour duquel il y a eu différentes activités. On est venu faire cuire, on a l'impression que c'est un individu, peut-être une femme de cette hutte qui est venue là faire un certain nombre de préparations. Et on a pu remonter des nucléus de silex, comme celui que je vous ai montré à l'instant. Et vous voyez que il est beaucoup moins beau que celui que je vous ai montré il y a deux minutes. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en fait, celui ou ceux qui ont débité ce bloc de silex savaient pas vraiment le faire. Et donc, ça arrive, hein, les accidents de taille. Mais là, ce n'est pas un accident de taille, c'est une accumulation d'accidents de taille qui a donné ce résultat-là. Et donc, ce qu'on voit quasiment à l'œuvre, c'est un ou deux, probablement adolescents ou jeunes tailleurs qui ne savent pas encore vraiment tailler, mais qui savent comment on fait. On leur a montré, ils connaissent la recette, mais ils savent pas vraiment l'appliquer, et donc ils ratent un petit peu à tous les coups. Et on a vraiment l'impression que c'est une zone d'apprentissage. Et on a des choses un peu du même ordre dans le registre de l'art paléolithique. Alors vous savez que dans les grottes ornées, comme ici à Pechmerle, il y a une fréquentation des lieux par des enfants ou des adolescents. Et c'est surtout dans le domaine de la gravure sur os que l'on voit le même genre de processus d'apprentissage que ce que je vous ai montré il y a un instant avec le silex. Pour graver de l'os avec un petit burin en silex, il faut faire preuve d'une très très grande habileté. Alors on étudie de façon très précise, vous voyez, au microscope électronique, une espèce de code barre que laissent ces outils de silex. On arrive à identifier un outil particulier qui a servi à faire certains traits et pas d'autres, etc. Et ce que l'on sait, parce qu'on a fait beaucoup d'expériences là-dessus, c'est que, en fait, graver sur de l'os, c'est très compliqué. Il faut faire preuve d'une grande habileté, d'une grande souplesse dans le geste et surtout maîtriser très très bien l'angle d'attaque de l'os avec ce petit burin de silex. Et on a, comme avec le silex, des ratés, des gens qui manifestement ne maîtrisent pas le geste, comme ceux qui ont produit cette gravure de Rennes magnifique que je vous ai montrée il y a un instant. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir où est-ce qu'on trouve ces ratés. Alors dans le magdalénien, c'est-à-dire cette époque à laquelle vivaient les gens d'Étiole, on trouve une production d'objets gravés, et notamment des rondelles comme celle-là, qui sont des rondelles sur lesquelles on trouve sur les deux faces le même animal, mais pas dans la même position. Et quand on fait tourner très vite la rondelle, on a une espèce de petit dessin animé. Alors on en a une en particulier très célèbre, on voit un mammouth qui cligne de l'œil hein, quand on fait tourner la rondelle. Il y a des gens qui ont inventé ça au 19e siècle, qui ont cru avoir inventé quelque chose de nouveau. Hein. Et alors, c'est évidemment pas simple à faire, parce qu'il faut être capable de reproduire le même animal exactement dans la même position sur les deux faces de la rondelle. Et ces rondelles, elles sont taillées dans des omoplates, comme celle-là, des omoplates de Rennes. Et on a des déchets de ces rondelles. Eh bien, on trouve sur ces omoplates de Rennes des traits gravés, qui sont des traits gravés qui montrent toutes ces maladresses que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à côté de l'artisan, de l'artiste qui était capable, avec une grande maîtrise, de produire ces objets, eh bien, il y avait quelqu'un qui récupérait le déchet et qui essayait de faire pareil. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.